Vous êtes sur RTL. RTL Midi. Le 12-30, Christelle Robière.
Bonjour à tous, bienvenue dans RTL Midi. Et en ce lundi 29 mars, peut-on raisonnablement laisser les écoles ouvertes? Emmanuel Macron devra faire un choix dans la semaine alors que l'épidémie flambe. Nous irons à Drancy où 22 classes d'un même lycée sont fermées. Nous verrons quel est le nouveau protocole sanitaire pour les élèves et les enseignants. Et nous serons avec le coprésident de la FCPE qui représente les parents d'élèves, Rodrigo Arenas. Les laboratoires Servier coupables de tromperie aggravée. Le tribunal de Paris a rendu son jugement dans l'affaire du Mediator. 2,7 millions d'euros d'amende, 4 ans de prison avec sursis pour l'ancien bras droit de Jacques Servier, mais la notion d'escroquerie n'a pas été retenue et c'est fondamental. Une fête clandestine, pas banale, à Marseille, les fêtards ont surveillé les policiers pour mieux leur échapper. Dans RTL Midi aussi, le bouchon du canal de Suez, qui ne devrait pas tarder à sauter, le gigantesque porte-conteneur a été remis à 80% dans la bonne direction. Et puis, Astérix et le Griffon, c'est le titre des futures aventures du petit Gaulois qui sortiront en octobre. Nous partirons à la découverte de cet animal mythologique. La météo, bonjour Louis Baudin.
Bonjour Christelle, bonjour à tous.
J'adore le mois de juin cette année.
Oui, c'est vrai, et pourtant non, on n'y est pas encore, mais ça va ressembler au mois de juin cet après-midi, avec du grand soleil. Je regarde là les images satellites, il n'y a quasiment pas un nuage sur la France, peut-être un petit peu du côté du Languedoc ou encore sur l'extrême nord, ailleurs donc du grand soleil, puis ça sera comme ça tout au long de l'après-midi. Un petit peu de vent d'autant entre Carcassonne et Toulouse, jusqu'à 70 km/h, peut-être donc quelques nuages autour du golfe du Lion, et puis les températures qui vont s'envoler. Hein. Il y aura souvent 20 degrés d'écart entre ce matin où c'est encore frais et cet après-midi où nous aurons donc des températures de juin avec 19 à 21 degrés près de la Méditerranée. C'est là où ces températures ont le plus de mal à grimper et 20 à 25 degrés dans toutes les autres régions.
La question du jour sur RTL.fr, peut-on encore éviter de fermer les écoles? Eh bien, vous dites oui à 32% et à 57% de non. On attend vos appels au 32-10. Bonjour Pascal Praud.
Bonjour Christelle. Et si vous êtes principal, proviseur, enseignant, mais également parent d'élèves et pourquoi pas élève, eh bien, vous pourrez nous appeler pour nous décrire la situation sanitaire dans votre établissement et puis pour nous donner votre avis au 32-10. On peut demander à une femme blanche ou à un homme de blanc de se taire lors d'une réunion non mixte. Ce sont les propos d'Audrey Pulvar, candidate PS pour les régionales en Ile-de-France. Ça crée la polémique ce week-end et là aussi, vous pourrez nous appeler sur ce sujet. Appelez-nous également sur le printemps si vous le souhaitez ou sur le week-end sportif avec l'équipe de France. À tout à l'heure.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
30 centimes la minute.
C'était l'un des plus gros scandales sanitaires de ces dernières années, celui du Mediator, un antidiabétique utilisé comme coupe-faim, responsable d'une centaine de décès. 10 ans après, le laboratoire Servier vient d'être condamné par le tribunal correctionnel de Paris pour tromperie aggravée. Jacques Servier est décédé entre-temps, mais son ancien bras droit a été condamné à 4 ans de prison avec sursis. Anne Luenaf, vous êtes au palais de justice de Paris. La notion d'escroquerie n'a pas été retenue par la justice. Et ça change tout, Anne?
Oui, ça abaisse en fait le niveau des peines et le montant des amendes. Les sociétés qui constituent le groupe Servier vont devoir payer 2 718 000 euros. C'est beaucoup moins que les 10 millions d'euros qui avaient été requis. Même chose pour l'actuel patron de Servier, 4 ans avec sursis, alors qu'il risquait 3 ans de prison ferme. C'est une décision en demi-teinte, vient de dire dans notre micro un des avocats des parties civiles. En fait, c'est une question juridique assez pointue. Pour qu'il y ait escroquerie, il faut un acte volontaire. Or, Servier s'est juste tué pendant des décennies, laissant le Mediator sur le marché alors qu'il en connaissait les risques. Mais le tribunal a tout de même eu des mots très sévères à son égard, parlant de l'extrême gravité des faits, d'une fraude d'une ampleur considérable qui a fait des milliers de victimes et qui a rompu la chaîne de confiance. L'agence du médicament qui a laissé le Mediator sur le marché pendant des années a, elle, été condamnée à 300 000 euros d'amende. Et le tribunal a terminé la lecture de ce long jugement en égrenant les sommes qui vont être versées à chaque partie civile, à Isabelle, à Fabien, à Marie-Yvonne, à Marilyn, des héritiers de malades décédés ou des personnes qui souffrent de graves maladies cardiaques depuis qu'elles ont pris du Mediator.
Anne Luenaf en direct du Palais de Justice de Paris pour RTL. Il faut tenir et la pression sur l'exécutif est de plus en plus forte. Les soignants redoutent d'avoir à faire le tri des patients dans les prochains jours et l'inquiétude grandit sur la propagation du virus dans les établissements scolaires. Ce qui se passe dans un lycée de Drancy en Seine-Saint-Denis est assez symptomatique. 60 contaminations depuis début mars, 20 parents d'élèves qui sont décédés en un an. Ce matin, 22 classes sont fermées dans cet établissement de 2000 élèves et beaucoup réclament la fermeture pure et simple de l'ensemble du lycée de la Croix, Nerissa Emani.
Oui, exactement. Des professeurs, des parents, des élèves inquiets qui commencent tout juste à se réunir devant les grilles du lycée en ce moment même. Certains réclament la fermeture du lycée. C'est le cas d'Abby, 17 ans.
Ma classe, elle a été fermée plus de 4 fois depuis décembre parce qu'il y avait des cas de corona, des cas de variants, etc. Ça ne m'intéresse pas de rater les cours pour rater les cours, mais je rate les cours pour faire comprendre qu'il faut fermer le lycée et qu'il y a urgence.
On compte 60 élèves infectés par le coronavirus en un mois. La faute à une absence de règles sanitaires pour Marie en terminale et sa professeure de lettres.
On est 30 dans une classe, parfois les fenêtres elles sont cassées. Il n'y a pas de gel hydroalcoolique à notre disposition. Les tables elles ne sont pas nettoyées souvent. On rentre dans une classe juste après que notre classe soit blindée.
C'est pas possible dans un lycée de 2000 élèves d'avoir aussi peu de personnel médical, aussi peu d'agents pour nettoyer les salles. Après qu'on nous dise il n'y a pas de problème, le protocole est assuré, c'est faux. C'est pas assuré.
Avec ces fermetures de classe, Madame Cotreau a surtout peur du décrochage scolaire.
Comme la plupart des cours sont des spécialités maintenant à partir de la première, ça veut dire qu'on va avoir des classes avec plein d'élèves absents. Et donc ceux qui sont contaminés chez eux, ils vont rester sur le carreau. Comment on va faire ?
Dans ce lycée, un dépistage massif doit être organisé dans la semaine.
Nerissa Emania Drancy pour RTL. Le protocole sanitaire a été de nouveau revu et corrigé depuis ce matin. Au moindre cas de Covid dans une classe des 19 départements en alerte, la classe ferme. Alors on va essayer de mettre tout ça au clair. Marie Guerrier, cette fermeture doit durer en principe combien de jours ?
Alors, la classe est fermée 7 jours. Tous les élèves sont considérés comme cas contact. Au bout de 7 jours, pour revenir à l'école, les parents doivent attester sur l'honneur que leur enfant, s'il a plus de 6 ans, a fait un test et que ce test est négatif. Si les parents ne fournissent pas d'attestation, l'enfant reste 7 jours de plus à la maison.
D'accord. Alors, comment assurer les cours pendant ce temps-là ?
Eh bien, on bascule dans l'enseignement à distance. Les enseignants vont donner du travail à faire à la maison via les mails ou en utilisant l'environnement numérique de travail, l'ENT, cette plateforme dont disposent les collèges et les lycées, mais aussi maintenant certaines écoles primaires. Sinon, il faudra aller chercher le travail à faire qui sera disponible à l'école. Il peut aussi y avoir des cours en visio. On sait depuis le premier confinement que c'est compliqué à organiser dans les petites classes en primaire. En lycée, dans les 19 départements confinés, les élèves sont déjà habitués. Ils suivent une partie de leurs cours à distance depuis la mise en place de l'enseignement hybride.
Et les cantines sont potentiellement des foyers de contamination, mais là, le protocole ne change pas.
Ah non, toujours les mêmes règles à respecter, lavage des mains, aération des locaux, désinfection des tables, limiter les flux et les brassages, donc les élèves déjeunent par classe ou par groupe, pour ne pas se mélanger, tous les jours par classe, tous les jours les mêmes groupes. On cherche la plus grande distanciation possible. Localement, les autorités sanitaires peuvent décider, en dernier recours, de fermer la cantine. Il peut aussi y avoir des distributions de paniers repas en classe, ce sont des options, mais ce n'est pas la règle générale, les cantines restent ouvertes.
Marie Guerrier. Hier soir, Jean-Michel Blanc a mis cette vidéo détournée du titre de Pink Floyd The Wall sur Twitter. Nous détestons l'éducation en ligne, chantent les profs. Nous avons l'impression d'avoir perdu le contrôle. Une vidéo tournée en fait en Californie. Le ministre ne donne pas d'explication, mais certains profs n'ont pas aimé ce parti pris sur le maintien des écoles ouvertes. Dans un instant, on va revenir justement sur cette question avec Pascal Praud.
RTL. RTL Midi.
Avec Christelle Rebière.
Peut-on encore éviter de fermer les écoles ? C'est la question du jour sur RTL.fr. C'est un débat que vous allez avoir longuement avec les auditeurs dans 20 minutes, Pascal Praud.
Il y a au moins 3 raisons pour laisser les écoles ouvertes. La première, c'est que le niveau d'incidence est moins important dans les écoles que dans le reste de la population. La deuxième raison, c'est que lorsqu'on a laissé, lors de la deuxième vague, ouvertes les écoles, on s'est aperçu que quand même il y avait des mesures qui pouvaient être efficaces alors que les écoles sont restées ouvertes. Et la troisième raison, c'est le décrochage scolaire qui est très très important. S20, S30%, on l'a entendu tout à l'heure. Le souci, c'est le brassage, c'est ce qu'on appelle le mixing. Donc effectivement, quand les enfants peuvent rentrer avec leurs parents, il faut sans doute encourager à ce moment-là, pourquoi pas des gestes barrières, même à la maison ou du télétravail ou d'arrêter les soirées, c'est ça. Aujourd'hui, le problème numéro un de l'épidémie.
Le débat est ouvert au 32-10.
50 centimes la minute.
Alors, qu'en pensent les parents d'élèves ? Rodrigo Arenas, coprésident de la FCPE, la Fédération des conseils de parents d'élèves, est avec nous. Bonjour.
Bonjour.
Pour vous, pas question de fermer les écoles ?
La question ne se pose pas dans ces termes-là. Il faut fermer si ça met en santé, en péril la santé de nos concitoyens et en particulier des enseignants, des élèves et des parents qui sont dans ce cluster parfois. Je pense à cette école à Sevran dans laquelle vous avez eu 11 enseignants sur 14 qui ont été déclarés absents parce que Covid. Et coûte que coûte, on ne veut pas fermer l'école. Et donc c'est les parents qui les gardent à la maison parce qu'ils sont conscients, ils sont responsables. Mais ce n'est pas une situation qui est responsable du point de vue de celles et ceux qui organisent l'école. Et c'est bien aujourd'hui, il faut pointer les vraies responsabilités. Les responsabilités, Pascal Praud le sait, puisqu'on a déjà eu l'occasion d'en échanger, lui et moi, il y a très longtemps, sur ces ondes, que nous demandons des moyens financiers, matériels, humains pour que l'école puisse continuer, qu'elle soit à distance ou qu'elle soit en présence. Et aujourd'hui, cet argent des enfants vient à manquer. Même pire, le ministre a rendu 200 millions d'euros sur son budget à son collègue du budget, 200 millions qui auraient été bien nécessaires à l'école pour faire face à cela. Donc si on met l'école sous quarantaine, dites... soyons clairs, ça va être compliqué.
Rodrigo Arenas, quand vous dites qu'il nous faudrait des embauches massives pour mieux encadrer les enfants, on voit bien qu'aujourd'hui, il n'y a pas de remplaçants dans les écoles, c'est un des problèmes. Mais ça, ce n'est pas une mesure d'urgence, ça prend du temps, ça.
Bah écoutez, il me semble que les étudiants qui en ce moment vont à la sup populaire pour manger, ceux qui aujourd'hui font du réassort chez Carrefour, chez Auchan, etc., pour payer leur loyer, ils seraient mieux sous l'autorité d'un enseignant pour faire du tutorat, de les aider dans les devoirs. Parce que la réalité, c'est quoi? C'est que les lycéens qui sont livrés eux-mêmes la moitié du temps parce que classe hybride, quand ils sont bloqués sur une leçon ou sur une partie du programme, ils sont livrés eux-mêmes. Donc ça dépend de quoi pour qu'ils s'en sortent? Ça dépend des parents qui peuvent les aider ou celles et ceux qui mettent la main au portefeuille pour payer des cours particuliers. Ce n'est pas tenable. Donc les choses se préparent et il n'est pas trop tard pour bien faire.
Et si on garde les écoles ouvertes, ça veut dire qu'il faut revoir le protocole sanitaire?
Non, le protocole sanitaire qui existe, mais depuis juillet 2020, il est tout à fait suffisant. C'est-à-dire permettre la distanciation physique, ça veut dire utiliser des salles disponibles. Pourquoi pas réquisitionner, y compris pour les enfants. Vous savez, tous les bureaux qui sont vides parce qu'on est en télétravail, ça serait bien utile pour les gamins. Ça veut dire mettre des masques chirurgicaux gratuits pour les enseignants et pour les enfants.
Mais les cantines, qu'est-ce qu'on fait dans les cantines? Parce que ça, c'est un lieu de contamination privilégié. C'est difficile. On les ferme, les cantines, ou pas? On les garde ouvertes quand même?
Il faut maintenir la restauration pour les enfants chaque fois que c'est possible, dans toutes les salles qui sont mises à disposition par les communes, les départements et les régions. C'est tout à fait faisable. D'ailleurs, des communes le font déjà. Le problème, c'est qu'il manque de l'argent. C'est pour ça que nous invitons tous les parents, tous les enseignants, les élèves, mercredi à 18h, à sortir et taper dans les casseroles en respectant les gestes barrières, parce que ces moyens, ils existent. Et on en a besoin pour maintenir cette école-là. Qu'encore une fois, qu'elle soit à distance ou qu'elle soit en présence. Parce que la question, c'est pas d'aller à l'école. La question, c'est de maintenir une scolarité pour les enfants. Oui. De maintenir ce lien social et arrêter de demander aux enseignants et aux parents de faire l'impossible, parce que quand on demande l'impossible, c'est toujours les enfants qui trinquent.
Maintenir la scolarité à tout prix. Merci beaucoup Rodrigo Arenas, co-président de la FCPE. Merci d'avoir été l'invité de ce journal. À Marseille, une semaine après le carnaval sauvage, une fête clandestine dans un ancien bar, dans la nuit de samedi à dimanche dans les quartiers nord, mais vraiment pas banal. D'habitude, la police se sert des caméras de surveillance pour débusquer ceux qui sont en infraction. Et bien là, ce sont les fêtards qui ont utilisé des caméras pour surveiller la police, Étienne Baudu.
Et oui, les organisateurs tentent toujours d'avoir un coup d'avance pour éviter les interpellations et les verbalisations de leurs clients. Et dans la nuit de samedi à dimanche, c'est donc grâce à ces caméras de surveillance installées à l'extérieur de la salle qu'ils aperçoivent des policiers qui vont intervenir. Ils décident alors de carrément fermer la porte d'accès de l'intérieur avec des vigiles, semble-t-il, pour éviter à des fêtards imprudents de sortir. Les policiers sont donc bloqués à l'extérieur, mais à 6h du matin, c'est le changement de quart. Certains partent et grâce une nouvelle fois aux images des caméras de surveillance, les organisateurs le voient et libèrent les fêtards par grappe de 50. Ça part dans tous les sens, c'est assez cocasse, dit un policier, avec des femmes en talons qui courent pour éviter d'être interpellées. Quelques coups de poing fusent. Il faut dire que les forces de l'ordre ont mis en fourrière une dizaine de véhicules dont certains étaient immatriculés dans les Alpes de Haute-Provence, la région parisienne et même dans les Landes. Une enquête va être ouverte pour retrouver les organisateurs de cette soirée pour laquelle il fallait débourser tout de même 150 euros, masque non compris.
Étienne Baudu. Emmanuel Macron sera cet après-midi à Créteil pour évoquer l'accélération de la campagne vaccinale. Il échangera avec les opérateurs de la plateforme d'appel chargée de contacter les personnes de 75 ans et plus pour prendre rendez-vous. On connaît enfin le contenu du rapport des experts de l'Organisation mondiale de la santé avec des experts chinois à propos des origines de l'épidémie. L'hypothèse la plus probable est la transmission du virus d'un animal, sans doute la chauve-souris, à l'homme par l'intermédiaire d'un autre animal qui n'a pas encore été identifié. Un incident de laboratoire reste, lui, extrêmement improbable. Une loi équilibrée ou sans ambition. La loi climat, qui fait l'objet de 7000 amendements, commence à être examinée aujourd'hui par les députés. Pour schématiser, la droite la trouve trop contraignante, la gauche et les citoyens de la Convention pour le climat pas assez. Quels vont être les points de friction, Marie-Bénédicte Allaire ?
Alors, en premier lieu, la rénovation énergétique des logements. Le sujet n'a été qu'effleuré en commission parce que le gouvernement attendait un rapport sur le sujet. Le texte prévoit d'interdire de louer les passoires thermiques à partir de 2028. Ce sont, vous savez, les logements aujourd'hui classés F et G sur les diagnostics thermiques. Eh bien, certains dans la majorité voudraient avancer cette date jusqu'à 2025. Autre sujet sensible, l'encadrement de la publicité. Le projet prévoit d'expérimenter le remplacement des autocollants Stop Pub par Oui Pub sur les boîtes aux lettres. Il faudrait donc une démarche volontaire pour avoir des prospectus, une disposition qui nuira à la filière et à l'emploi, disent certains. Les députés devront aussi définir plus précisément le greenwashing, c'est-à-dire le verdissage de la publicité par les entreprises, car des sanctions sont prévues, mais la notion est encore floue. Et puis, il y a la suppression des vols intérieurs en cas d'alternative de moins de 2h30 en train. Là aussi, ça devrait faire partie des mesures qui seront débattues.
Marie-Bénédicte Allaire, le musée d'Orsay s'appellera aussi Valéry Giscard d'Estaing, tout comme celui de l'Orangerie. La décision a été annoncée ce matin par le ministère de la Culture. Le musée d'Orsay avait été créé par l'ancien président de la République, disparu en décembre dernier. Dans un instant, le canal de Suez presque débloqué.
RTL Midi avec Christelle Rebière.
Chaque minute dans le canal de Suez pèse plusieurs centaines de millions d'euros. Le gigantesque porte-conteneur Ever Given qui obstrue cet axe maritime majeur entre la mer Rouge et la Méditerranée depuis près d'une semaine a été remis à 80% dans la bonne direction. Mais pour le renflouer totalement, il va falloir encore de longues heures, Rosa Youssef.
On n'est pas encore au bout du canal, mais presque. Alors que le mastodonte n'avait pas bougé depuis 6 jours, il a été en grande partie débloqué cette nuit. Vers 5h du matin, les villageois voisins ont été réveillés par un concert de klaxons. On entend l'équipage, les marins égyptiens s'exclamer « Merci Dieu, Dieu est le plus grand ». Pour autant, tout n'est pas réglé. Les autorités assurent que le porte-conteneur n'est débloqué qu'à 80%. Ça veut dire qu'il a tourné, mais est encore un peu en diagonale. Les remorqueurs ont réussi à pousser l'arrière du bateau pour le dégager du rivage à plus de 100 mètres. Mais la proue, elle, reste encore trop proche de la berge. Il faut donc continuer de déblayer la boue qui l'empêche de se dégager. Les opérations de remorquage ont repris il y a une heure avec la marée montante. Et il est très possible que la circulation reprenne à la mi-journée, assure le responsable du canal de Suez, qui ne veut pas perdre une seconde. Il faudra quand même compter entre 2 et 3 jours pour que le trafic se fluidifie. Près de 400 bateaux forment un gros bouchon aux 2 entrées du canal de Suez.
Une correspondance de Rosa Youssef en Égypte. Le président égyptien Al-Sisi se félicite évidemment d'une opération réussie.
RTL, le coup de cœur de nos correspondants.
Et nous partons sur le port du Havre, au pied des navires, à quai, car les marins étrangers n'ont pas le droit de quitter leur bateau à cause de la pandémie. Alors pour leur donner le goût de la Normandie, des bénévoles leur offrent des colis gourmands, Frédéric Veille.
D'ordinaire, le foyer accueille plus de 10 000 marins chaque année, mais comme l'explique Benoît Sagot, le président de l'association, avec le confinement...
C'est totalement vide, on n'a plus le droit d'accepter des gens. Les marins qui sont sur leur navire, ils ne peuvent pas venir, donc on va à eux.
Direction donc le port, mais avant cela, arrêt express à la boulangerie.
Alors là, on vient récupérer les paniers gourmands.
Mélanie est l'une des employées de l'association.
Des viennoiseries toutes fraîches, confiture et spécialité aussi de Normandie.
Des spécialités qui, dans la demi-heure qui suit, sont livrées directement sur les bateaux.
Alors là, on arrive sur le NG Worker, un bateau qui est stationné là depuis un petit moment maintenant. On va se renseigner sur le nombre à bord. Is it possible for you to come?
Très vite, le capitaine italien de ce porte-conteneur descend à quai, tout surpris de cette belle offrande.
Je suis très content. Merci beaucoup pour tout le service.
Merci. On pense à eux, malgré le fait qu'ils ne puissent pas forcément descendre des bateaux. Des fois, ils se sentent malheureusement un petit peu oubliés. Et là, avec les colis gourmands, ils ont le sourire jusqu'aux oreilles, en fait. C'est merveilleux.
Et tous les jours, ce sont des dizaines de marins qui reçoivent ces colis gourmands.
Voilà, ils vont découvrir le camembert et autres joyeusetés. Merci Frédéric. Astérix et le Griffon, c'est le titre du 39e album du petit Breton malin et teigneux. RTL vous l'a révélé ce matin. Avec son ami Obélix, ils vont partir en voyage. Jean-Yves Ferry, qui écrit le scénario, a expliqué à Monique Younes pourquoi il avait choisi ce titre.
Alors le griffon, sa caractéristique, c'est qu'il a la tête de l'aigle, il a le corps du lion et il a des oreilles de cheval. Tous ces animaux de la mythologie grecque étaient bien connus des Romains. Donc je me suis posé la question, je me suis dit, est-ce que les Romains croyaient vraiment en leur existence? Parce qu'après tout, entre un rhinocéros, un éléphant ou un griffon, les animaux sont fantastiques, quoi, aux yeux des Romains. Après, moi, ce que je trouvais amusant, c'est de me dire comment se représentait le monde à cette époque. Quand vous connaissez pas vraiment les zones géographiques, qu'elles restent inexplorées, quelle image on se fait de ces pays-là, quoi. Quand on connaît un peu la psychologie des Romains, ça peut amener pas mal de gags.
Et on imagine, l'album sortira le 21 octobre. Astérix, c'est un succès mondial. 380 millions d'albums vendus depuis 60 ans. Pascal Pro, vous allez prendre la parole avec les auditeurs dans 5 minutes.
Semaine importante, évidemment. La France peut-elle échapper à un confinement strict? Emmanuel Macron a dit qu'il attendait encore 2-3 jours avant de prendre une décision au conseil sanitaire mercredi matin. Eh bien, on va en parler. Faut-il fermer les écoles, les collèges, les lycées? Peut-on encore l'éviter? On attend tous vos témoignages sur ce sujet. On parlera également d'Audrey Pulvar. On l'a dit tout à l'heure, et cette phrase, on peut demander à une femme blanche ou à un homme blanc de se taire lors d'une réunion non mixte. Ça fait parler.
La météo, Louis Baudin, pas oui. Un nuage à l'horizon.
Ben, je regarde les images satellites et j'ai cherché les nuages. Il y en a un petit peu sur les Flandres, il y en a un petit peu également autour du golfe du Lion et ailleurs, si je ne me trompe pas, si mes images sont fidèles, ben, c'est ciel bleu. Et ça restera comme ça tout au long de l'après-midi, ciel bleu pour tout le monde, peut-être quelques rares nuages du côté du Finistère ou encore autour du golfe du Lion poussé par un vent d'autant. Ça c'est vrai, qui soufflera assez fort entre Carcassonne et Toulouse jusqu'à 60 voire 70 km/h, ça peut être désagréable. Et puis côté température, ben, c'est l'envolée pour tout le monde. Hein. Alors après une matinée fraîche. Hein. Oui. On est vraiment dans ces journées multicouches. Hein. On ne peut pas être habillé de la même façon le matin, surtout si on se lève tôt.
À votre théorie de l'oignon qui est devenue célèbre.
Quand il y a au moins 20 degrés d'écart entre le matin et l'après-midi, c'est sûr qu'il faut s'adapter. Donc cet après-midi, on atteindra les 19 à 21 degrés, pas loin, près de la Méditerranée. Finalement, celle-là, ça sera peut-être le moins doux. Puis dans toutes les autres régions, on sera entre 20 et 24, voire 25 degrés. On aura 22 à Paris, 20 degrés à Lille, 22 à Strasbourg, par exemple, 23 à Lyon, 25 degrés à Bordeaux et 26 degrés même attendu à Biarritz.
Et demain, même réjouissance?
Bah oui, ça a l'air de vous plaire, donc je continue.
Ah bah oui, alors là, ça va tenir longtemps comme ça. Hein.
C'est la météo qui décide, c'est pas moi. En tout cas, demain, oui, ça sera la même chose, avec toujours ces conditions anticycloniques, parfaitement installées. Soleil pour tout le monde, du matin au soir. Quelques nuages, encore un peu de vent d'autant, là, sur la région toulousaine, ou encore autour du golfe du Lion. Puis les températures, comme aujourd'hui. Alors le matin, on évitera les gelées en pleine. Il y en avait ce matin, il n'y en aura pas demain matin. Et l'après-midi, on sera entre 20 et 25 degrés encore, dans toutes les autres régions, jusqu'à 20 degrés parfois, près de la Méditerranée.
Merci Louis, on adore. Vous revenez quand vous voulez avec ce genre d'accord. De programme. Il va être 13h sur RTL, à tout de suite.
Au 32-10, RTL vous donne la parole.
Et 12h59.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Avouons-le, on a parfois l'impression de se répéter et on va reparler du reconfinement aujourd'hui puisqu'on attend des décisions cette semaine. Bonjour Anne.
Oui, bonjour Pascal, vous allez bien?
Mais ça va bien, vous êtes infirmière, vous êtes pour un confinement strict?
Bah écoutez, je suis relativement partagée parce que oui, par rapport aux chiffres qui montent, il faudrait effectivement que l'on reconfine plus strictement que ce qui se fait actuellement.
Et vous allez nous le dire plus longuement peut-être dans quelques secondes, puisque pour le moment, c'est le rappel des titres avec Christelle.
Les laboratoires Servier coupables de tromperie aggravée. Le tribunal de Paris a rendu son jugement dans l'affaire du Mediator. 2,7 millions d'euros d'amende, 4 ans de prison avec sursis pour l'ancien bras droit de Jacques Servier. Mais la notion d'escroquerie n'a pas été retenue et ça change tout. L'Agence nationale de sécurité du médicament a été condamnée à 303 000 euros d'amende pour avoir failli dans sa mission de police sanitaire. Dès le premier cas de Covid, fermeture de la classe, c'est le nouveau protocole sanitaire qui s'applique depuis ce matin dans les 19 départements les plus touchés par le Covid et qui font l'objet de restrictions. Des mesures probablement plus drastiques devront être prises dans la semaine face à la flambée de l'épidémie. La pandémie a privé Paris et sa région de 15 milliards d'euros de recettes l'an dernier. La fréquentation touristique s'est effondrée avec 33 millions nombre de visiteurs en moins par rapport à l'année d'avant. Les musées d'Orsay et de l'Orangerie porteront aussi le nom de l'ancien président de la République, Valéry Giscard d'Estaing. Annonce du ministère de la Culture. Roselyne Bachelot salue un homme passionné par l'art et la littérature du 19e siècle qui avait décidé donc en 1977 de créer le musée d'Orsay.
Les auditeurs ont la parole.